Bonjour, nous vous proposons ce jour une nouvelle émission de notre série consacrée à Marcel Proust. Il est quelques thèmes récurrents dans l'œuvre de Marcel Proust, dont le baiser du soir, auquel nous avons déjà consacré une émission, mais il en est aussi d'autres, dont celui objet de cette émission, centré autour de l'expression artistique dans ses relations avec la vie des personnages. Celui de la littérature, bien sûr, mais ce jour, nous allons nous intéresser à la petite phrase de Vinteuil. Il s'agit d'un thème musical dont l'évocation va parcourir toute la recherche. Ces émissions sont réalisées avec la participation à la diction, mais aussi au choix des thèmes et extraits retenus d'André Bonhomme, avec qui donc nous co-réalisons ces émissions, qui nous tiennent fort à cœur à tous les deux. Bonne écoute.
Or, quand le pianiste eut joué, Swann fut plus aimable encore avec lui qu'avec les autres personnes qui se trouvaient là. Voici pourquoi. L'année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait déjà été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne du violon, mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée, comme la mauvaise agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l'harmonie, il ne savait lui-même, qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de rose, circulant dans l'air humide du soir, ont la propriété de dilater nos narines. Peut-être est-ce parce qu'il ne savait pas la musique qu'il avait pu éprouver une impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut-être pourtant les seules purement musical, inétendu, entièrement original, irréductible à tout autre ordre d'impression. Une impression de ce genre, pendant un instant, est pour ainsi dire sine materia. Sans doute, les notes que nous entendons alors tendent déjà, selon leur hauteur et leur quantité, à couvrir devant nos yeux des surfaces de dimensions variées, à tracer des arabesques, à nous donner des sensations de largeur, de ténuité, de stabilité, de caprice. Mais les notes sont évanouies avant que ces sensations soient assez formées en nous pour ne pas être submergées par celles qu'éveillent déjà les notes suivantes ou même simultanées. Et cette impression continuerait à envelopper de sa liquidité et de son fondu les motifs qui par instant en émergent, à peine discernables, pour plonger aussitôt et disparaître, connus seulement par le plaisir particulier qu'ils donnent, impossible à décrire, à se rappeler, à nommer, ineffable. Si la mémoire, comme un ouvrier, qui travaille à établir des fondations durables au milieu des flots, en fabriquant pour nous des facsimilés de ces phrases fugitives, ne nous permettait de les comparer à celles qui leur succèdent et de les différencier. Ainsi, à peine la sensation délicieuse que Swann avait ressentie était-elle expirée, que sa mémoire lui en avait fourni, séance tenante, une transcription sommaire et provisoire, mais sur laquelle il avait jeté les yeux, tandis que le morceau continuait, si bien que quand la même impression était tout d'un coup revenue, elle n'était déjà plus insaisissable. Il s'en représentait l'étendue, les groupements symétriques, la graphie, la valeur expressive. Il avait devant lui cette chose qui n'est plus de la musique pure, qui est du dessin, de l'architecture, de la pensée, et qui permet de se rappeler la musique. Cette fois, il avait distingué nettement une phrase s'élevant pendant quelques instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposé aussitôt des voluptés particulières dont il n'avait jamais eu l'idée avant de l'entendre, dont il sentait que rien autre qu'elle ne pourrait les lui faire connaître. Et il avait éprouvé pour elle comme un amour inconnu. D'un rythme lent, elle le dirigeait ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, inintelligible et précis. Et tout d'un coup, au point où elle était arrivée et d'où il se préparait à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement, elle changeait de direction. Et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l'entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une troisième fois, et elle reparut en effet, mais sans lui parler plus clairement, en lui causant même une volupté moins profonde. Mais rentré chez lui, il eut besoin d'elle. Il était comme un homme dans la vie de qui une passante qu'il a aperçue un moment vient de faire entrer l'image d'une beauté nouvelle qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus grande sans qu'il sache seulement s'il pourra revoir jamais celle qu'il aime déjà et dont il ignore jusqu'au nom. Même cet amour pour une phrase musicale semble un instant devoir amorcer chez Swann la possibilité d'une sorte de rajeunissement. Depuis si longtemps, il avait renoncé à appliquer sa vie à un but idéal, et la bornait à la poursuite de satisfactions quotidiennes qu'il croyait, sans jamais se le dire formellement, que cela ne changerait plus jusqu'à sa mort. Bien plus, ne se sentant plus d'idées élevées dans l'esprit, il avait cessé de croire à leur réalité, sans pouvoir non plus la nier tout à fait. Aussi avait-il pris l'habitude de se réfugier dans des pensées sans importance qui lui permettait de laisser de côté le fond des choses. De même qu'il ne se demandait pas s'il n'eût pas mieux fait de ne pas aller dans le monde, mais en revanche, savait avec certitude que s'il avait accepté une invitation, il devait s'y rendre, et que s'il ne faisait pas de visite après, il lui fallait laisser des cartes. De même, dans sa conversation, il s'efforçait de ne jamais exprimer avec cœur une opinion intime sur les choses, mais de fournir des détails matériels qui valaient en quelque sorte par eux-mêmes et lui permettaient de ne pas donner sa mesure. Il était extrêmement précis pour une recette de cuisine, pour la date de naissance ou de la mort d'un peintre, pour la nomenclature de ses œuvres. Parfois, malgré tout, il se laissait aller à émettre un jugement sur une œuvre, sur une manière de comprendre la vie. Mais il donnait alors à ses paroles un ton ironique, comme s'il n'adhérait pas tout entier à ce qu'il disait. Or, comme certains valétudinaires chez qui tout d'un coup un pays où ils sont arrivés, un régime différent, quelquefois une évolution organique, spontanée et mystérieuse, semble amener une telle régression de leur mal qu'ils commencent à envisager la possibilité inespérée de commencer sur le tard une vie toute différente, Swann trouvait en lui, dans le souvenir de la phrase qu'il avait entendue, dans certaines sonates qu'il s'était fait jouer, pour voir s'il ne l'y découvrirait pas, la présence d'une de ces réalités invisibles auxquelles il avait cessé de croire et auxquelles, comme si la musique avait eu sur la sécheresse morale dont il souffrait une sorte d'influence élective, il se sentait de nouveau le désir et presque la force de consacrer sa vie. Mais n'étant pas arrivé à savoir de qui était l'œuvre qu'il avait entendue, il n'avait pu se la procurer et avait fini par l'oublier. Il avait bien rencontré dans la semaine quelques personnes qui se trouvaient comme lui à cette soirée et les avait interrogées, mais plusieurs étaient arrivés après la musique ou partis avant. Certaines pourtant étaient là pendant qu'on l'exécutait, mais étaient allées causer dans un autre salon, et d'autres, restés à écouter, n'avaient pas entendu plus que les premières. Quant au maître de maison, il savait que c'était une œuvre nouvelle que les artistes qu'ils avaient engagés avaient demandé à jouer. Ceux-ci étant partis en tournée, Swann ne put en savoir davantage. Il avait bien des amis musiciens, mais tout en se rappelant le plaisir spécial et intraduisible que lui avait fait la phrase, en voyant devant ses yeux les formes qu'elle dessinait, il était pourtant incapable de la leur chanter. Puis, il cessa d'y penser. Or, quelques minutes à peine après que le petit pianiste avait commencé de jouer chez Madame Verdurin, tout d'un coup, après une note haute, longuement tenue pendant deux mesures, il vit s'approcher, s'échappant, sous cette sonorité prolongée et tendue comme un rideau sonore pour cacher le mystère de son incubation, il reconnut, secrète, bruissante et divisée, la phrase aérienne et odorante qu'il aimait. Et elle était si particulière, elle avait un charme si individuel, et qu'aucun autre n'aurait pu remplacer, que ce fut pour Swann comme s'il eût rencontré dans un salon ami une autre personne qu'il avait admirée dans la rue et désespérait de ne jamais retrouver. À la fin, elle s'éloigna, indicatrice, diligente, parmi les ramifications de son parfum, laissant sur le visage de Swann le reflet de son sourire. Mais maintenant, il pouvait demander le nom de son inconnu. On lui dit que c'était l'andante de la sonate pour piano et violon de Vinteuil. Il la tenait. Il pourrait l'avoir chez lui aussi souvent qu'il voudrait. Essayer d'apprendre son langage et son secret. Parfois, en voyant de sa Victoria dans ses belles nuits froides la lune brillante qui répandait sa clarté entre ses yeux et les rues désertes, il pensait à cette autre figure claire et légèrement rosée comme celle de la lune, qui un jour avait surgi devant sa pensée et depuis projetait sur le monde la lumière mystérieuse dans laquelle il le voyait. S'il arrivait après l'heure où Odette envoyait ses domestiques se coucher avant de sonner à la porte du petit jardin, il allait d'abord dans la rue où donnait au rez-de-chaussée, entre les fenêtres toutes pareilles mais obscures des hôtels contigus, la fenêtre seule éclairée de sa chambre. Il frappait au carreau et elle, averti, répondait et allait l'attendre de l'autre côté à la porte d'entrée. Il trouvait ouvert sur son piano quelques-uns des morceaux qu'elle préférait. La valse des roses ou Pauvre fou de Tagliafico. Il lui demandait de jouer à la place la petite phrase de la sonate de Vinteuil. Bien qu'Odette jouât fort mal, mais la vision la plus belle qui nous reste d'une œuvre est souvent celle qui s'éleva au-dessus des sons faux tirés par des doigts malhabiles d'un piano désaccordé. La petite phrase continuait à s'associer pour Swann à l'amour qu'il avait pour Odette. Il sentait bien que cet amour, c'était quelque chose qui ne correspondait à rien d'extérieur, de constatable par d'autres que lui. Il ne se rendait pas compte que les qualités d'Odette ne justifiaient pas qu'il attachât tant de prix au moment passé près d'elle. Et souvent, quand c'était l'intelligence positive qui régnait seule en Swann, il voulait cesser de sacrifier tant d'intérêts intellectuels et sociaux à ce plaisir imaginaire. Mais la petite phrase, dès qu'il l'entendait, savait rendre libre en lui l'espace qui pour elle était nécessaire. Les proportions de l'âme de Swann s'en trouvaient changées. Une marge y était réservée à une jouissance qui, elle non plus, ne correspondait à aucun objet extérieur et qui pourtant, au lieu d'être purement individuelle comme celle de l'amour, s'imposait à Swann comme une réalité supérieure aux choses concrètes. Cette soif d'un charme inconnu, la petite phrase l'éveillait en lui, mais ne lui apportait rien de précis pour l'assouvir. De sorte que ces parties de l'âme de Swann, où la petite phrase avait effacé le souci des intérêts matériels, les considérations humaines et valables pour tous, elle les avait laissées vacantes et en blanc, et il était libre d'y inscrire le nom d'Odette. Puis, à ce que l'affection d'Odette pouvait avoir d'un peu court et décevant, la petite phrase venait ajouter, amalgamer son essence mystérieuse. Avoir le visage de Swann pendant qu'il écoutait la phrase, on aurait dit qu'il était en train d'absorber un anesthésique qui donnait plus d'amplitude à sa respiration. Et le plaisir que lui donnait la musique et qui allait bientôt créer chez lui un véritable besoin ressemblait en effet, à ces moments-là, au plaisir qu'il aurait eu à expérimenter des parfums, à entrer en contact avec un monde pour lequel nous ne sommes pas faits, qui nous semble sans forme, parce que nos yeux ne le perçoivent pas, sans signification, parce qu'il échappe à notre intelligence, que nous n'atteignons que par un seul sens. Grand repos. Mystérieuse rénovation pour Swann, pour lui dont les yeux, quoique délicats, amateurs de peinture, dont l'esprit, quoique fin observateur des mœurs, portait à jamais la trace indélébile de la sécheresse de sa vie, de se sentir transformé en une créature étrangère à l'humanité, aveugle, dépourvue de facultés logiques, presque une fantastique licorne, une créature chimérique, ne percevant le monde que par l'ouïe. Et comme dans la petite phrase, il cherchait cependant un sens où son intelligence ne pouvait descendre, quelle étrange ivresse il avait à dépouiller son âme la plus intérieure de tous les secours du raisonnement et à la faire passer seule dans le couloir, dans le filtre obscur du son. Il commençait à se rendre compte de tout ce qu'il y avait de douloureux, peut-être même de secrètement inapaisé, au fond de la douceur de cette phrase, mais il ne pouvait pas en souffrir. Qu'importait qu'elle lui dît que l'amour est fragile ? Le sien était si fort. Il jouait avec la tristesse qu'elle répandait. Il la sentait passer sur lui. Mais comme une caresse qui rendait plus profond et plus doux le sentiment qu'il avait de son bonheur. Il la faisait rejouer 10 fois, 20 fois à Odette, exigeant qu'en même temps elle ne cessât pas de l'embrasser. Chaque baiser appelle un autre baiser. Ah, dans ces premiers temps où l'on aime, les baisers naissent si naturellement. Ils foisonnent si pressés les uns contre les autres, et l'on aurait autant de peine à compter les baisers qu'on s'est donné pendant 1 heure que les fleurs d'un champ au mois de mai. Alors elle faisait mine de s'arrêter, disant « Comment veux-tu que je joue comme cela si tu me tiens ? Je ne peux tout faire à la fois. Sache au moins ce que tu veux. Est-ce que je dois jouer la phrase ou faire des petites caresses ?» Lui se fâchait. Et elle éclatait d'un rire qui se changeait et retombait sur lui en une pluie de baisers.
Quelques années après, Odette de Crécy, sociétaire du Salon des Verdurins, y introduira Charles Swann, une nouvelle relation à elle. C'est dans ce salon, en sa compagnie, qu'il découvrira la petite phrase de Vinteuil. Nous retrouvons les réflexions de Swann quelque temps après, quand, après avoir été très amoureux d'Odette, lassé par ses comportements, il a rompu sa relation.
Mais le concert recommença. Et Swann comprit qu'il ne pourrait pas s'en aller avant la fin de ce nouveau numéro du programme. Il souffrait de rester enfermé au milieu de ces gens dont la bêtise et les ridicules le frappaient d'autant plus douloureusement qu'ignorant son amour, incapable, s'il l'avait connu, de s'y intéresser et de faire autre chose que d'en sourire comme d'un enfantillage ou de le déplorer comme une folie, il le lui faisait apparaître sous l'aspect d'un état subjectif qui n'existait que pour lui et dont rien d'extérieur ne lui affirmait la réalité. Il souffrait surtout, et au point que même le son des instruments lui donnait envie de crier, de prolonger son exil dans ce lieu où Odette ne viendrait jamais, où personne, où rien ne la connaissait, d'où elle était entièrement absente. Mais tout à coup, ce fut comme si elle était entrée. Et cette apparition fut une si déchirante souffrance qu'il dut porter la main à son cœur. C'est que le violon était monté à des notes hautes où il restait comme pour une attente qui se prolongeait sans qu'il cessât de les tenir, dans l'exaltation où il était d'apercevoir déjà l'objet de son attente qui s'approchait, et avec un effort désespéré pour tâcher de durer jusqu'à son arrivée, de l'accueillir avant d'expirer, de lui maintenir encore un moment de toutes ses dernières forces le chemin ouvert pour qu'il pût passer, comme on soutient une porte qui sans cela retomberait. Et avant que Swann eût le temps de comprendre et de se dire « C'est la petite phrase de Vinteuil, n'écoutons pas » tous ses souvenirs du temps où Odette était éprise de lui et qu'il avait réussi jusqu'à ce jour à maintenir invisible dans les profondeurs de son être, trompé par ce brusque rayon du temps d'amour qu'il crut revenu, s'était réveillé et à tire d'aile était remonté lui chanter éperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. Au lieu des expressions abstraites, tant où j'étais heureux, tant où j'étais aimé, qu'il avait souvent prononcé jusque-là et sans trop souffrir, car son intelligence n'y avait enfermé du passé que de prétendus extraits qui n'en conservaient rien. Il retrouva tout ce qui, de ce bonheur perdu, avait fixé à jamais la spécifique et volatile essence. Il revit tout, les pétales neigeux et frisés du chrysanthème qu'elle lui avait jeté dans sa voiture, qu'il avait gardé contre ses lèvres. L'adresse en relief de la maison dorée, sur la lettre où il avait lu « Ma main tremble si fort en vous écrivant », le rapprochement de ses sourcils quand elle lui avait dit d'un air suppliant « Ce n'est pas dans trop longtemps que vous me ferez signe ?» Il sentit l'odeur du fer du coiffeur par lequel il se faisait relever sa brosse pendant que l'oreille dent allait chercher la petite ouvrière. Les pluies d'orage qui tombèrent si souvent ce printemps-là, le retour glacial dans sa Victoria au clair de lune, toutes les mailles d'habitude mentale, d'impressions saisonnières, de réactions cutanées qui avaient étendu sur une suite de semaines un réseau uniforme dans lequel son corps se trouvait repris. À ce moment-là, il satisfaisait une curiosité voluptueuse en connaissant les plaisirs des gens qui vivent par l'amour. Il avait cru qu'il pourrait s'en tenir là, qu'il ne serait pas obligé d'en apprendre les douleurs. Comme maintenant le charme d'Odette lui était peu de chose auprès de cette formidable terreur qui le prolongeait, comme un trouble halo, cette immense angoisse de ne pas savoir à tout moment ce qu'elle avait fait, de ne pas la posséder, partout et toujours. Hélas, il se rappela l'accent dont elle s'était écriée « Mais je pourrai toujours vous voir, je suis toujours libre !» Elle, qui ne l'était plus jamais. L'intérêt, la curiosité qu'elle avait eue pour sa vie à lui, le désir passionné qui lui fit la faveur, redouté au contraire par lui en ces temps-là comme une cause d'ennuyeux dérangement, de l'y laisser pénétrer. Comme elle avait été obligée de le prier pour qu'il se laissât mener chez les Verdurin. Et quand il la faisait venir chez lui une fois par mois, comme il avait fallu avant qu'il se laissât fléchir, qu'elle lui répéta le délice que serait cette habitude de se voir tous les jours dont elle rêvait, alors qu'elle ne lui semblait à lui qu'un fastidieux tracas, puis qu'elle avait pris en dégoût et définitivement rompu, pendant qu'elle était devenue pour lui un si invincible et si douloureux besoin. Il ne savait pas dire si vrai quand, à la troisième fois qu'il l'avait vue, comme elle lui répétait « Mais pourquoi ne me laissez-vous pas venir plus souvent ?» Il lui avait dit en riant, avec galanterie, par peur de souffrir. Maintenant, hélas, il arrivait encore parfois qu'elle lui écrivit d'un restaurant ou d'un hôtel, sur du papier qui emportait le nom imprimé. Mais c'était comme des lettres de feu qui le brûlaient. C'est écrit de l'hôtel Vouillemont. Qui peut-elle être allée faire? Avec qui? Que s'y est-il passé? Il se rappela les becs de gaz qu'on éteignait boulevard des Italiens quand il l'avait rencontré contre tout espoir parmi les ombres errantes dans cette nuit qui lui avait semblé presque surnaturelle. Nuit d'un temps où il n'avait même pas à se demander s'il ne la contrarierait pas en la cherchant, en la retrouvant tant il était sûr qu'elle n'avait pas de plus grande joie que de le voir et de rentrer avec lui, et nuit qui, en effet, appartenait bien à un monde mystérieux où on ne peut jamais revenir quand les portes sont refermées. Et Swann aperçut, immobile en face de ce bonheur revécu, un malheureux qui lui fit pitié, parce qu'il ne le reconnut pas tout de suite, si bien qu'il dut baisser les yeux pour qu'on ne vît pas qu'ils étaient pleins de larmes. C'était lui-même. Quand il l'eut compris, sa pitié cessa, mais il fut jaloux de l'autre lui-même qu'elle avait aimé. Il fut jaloux de ceux dont il s'était dit souvent sans trop souffrir. Elle les aime peut-être. Maintenant qu'il avait échangé l'idée vague d'aimer dans laquelle il n'y a pas d'amour contre les pétales du chrysanthème et l'entête de la maison d'or qui, eux, en étaient pleins. Puis sa souffrance devenant trop vive, il passa sa main sur son front, laissa tomber son monocle, en essuya le verre. Et sans doute, s'il s'était vu à ce moment-là, il eût ajouté à la collection de ceux qu'il avait distingués le monocle, qu'il déplaçait comme une pensée importune, et sur la face embuée duquel, avec un mouchoir, il cherchait à effacer des soucis. Il y a dans le violon, si ne voyant pas l'instrument, on ne peut rapporter ce qu'on entend à son image, laquelle modifie la sonorité, des accents qui lui sont si communs avec certaines voix de contralto, qu'on a l'illusion qu'une chanteuse s'est ajoutée au concert. On lève les yeux, on ne voit que des étuis précieux comme des boîtes chinoises, mais par moments, on est encore trompé par l'appel décevant de la sirène. Parfois aussi, on croit entendre un génie captif qui se débat au fond de la docte boîte ensorcelée et frémissante comme un diable dans un bénitier. Parfois, enfin, c'est dans l'air comme un être surnaturel et pur qui passe en déroulant son message invisible. Comme si les instrumentistes beaucoup moins jouaient la petite phrase qu'ils n'exécutaient les rites exigés d'elle pour qu'elle apparût, et procédaient aux incantations nécessaires pour obtenir et prolonger quelques instants le prodige de son évocation, Swann, qui ne pouvait pas plus la voir que si elle avait appartenu à un monde ultraviolet et qui goûtait comme le rafraîchissement d'une métamorphose dans la cécité momentanée dont il était frappé en approchant d'elle. Swann la sentait présente comme une déesse protectrice et confidente de son amour et qui, pour pouvoir arriver jusqu'à lui devant la foule et l'emmener à l'écart pour lui parler, avait revêtu le déguisement de cette apparence sonore. Et tandis qu'elle passait, légère, apaisante, et murmurait comme un parfum, lui disant ce qu'elle avait à lui dire, et dont il scrutait tous les mots, regrettant de les voir s'envoler si vite, il faisait involontairement avec ses lèvres le mouvement de baiser au passage le corps harmonieux et fuyant. Il ne se sentait plus exilé et seul puisque elle, qui s'adressait à lui, lui parlait à mi-voix d'Odette. Car il n'avait plus comme autrefois l'impression qu'Odette et lui n'étaient pas connus de la petite phrase. C'est que si souvent elle avait été témoin de leur joie. Il est vrai que souvent aussi elle l'avait averti de leur fragilité, et même, alors que dans ce temps-là il devinait de la souffrance dans son sourire, dans son intonation limpide et désenchantée, aujourd'hui il y trouvait plutôt la grâce d'une résignation presque gaie. De ses chagrins, dont elle lui parlait autrefois, et qu'il la voyait, sans qu'il fût atteint par eux, entraîné en souriant dans son cours sinueux et rapide, de ses chagrins qui maintenant étaient devenus les siens, sans qu'il eût l'espérance d'en être jamais délivré, elle semblait lui dire comme jadis de son bonheur, « Qu'est-ce cela ? Tout cela n'est rien. » Et la pensée de Swann se porta pour la première fois dans un élan de pitié et de tendresse pour ce Vinteuil, vers ce frère inconnu et sublime qui lui aussi avait dû tant souffrir. Qu'avait pu être sa vie? Au fond de quelle douleur avait-il puisé cette force de Dieu, cette puissance illimitée de créer? Quand c'était la petite phrase qui lui parlait de la vanité de ses souffrances, Swann trouvait de la douceur à cette même sagesse qui tout à l'heure pourtant lui avait paru intolérable quand il croyait la lire dans les visages des indifférents qui considéraient son amour comme une divagation sans importance. C'est que la petite phrase, au contraire, quelque opinion qu'elle pût avoir sur la brève durée de ses états d'âme, y voyait quelque chose. Non pas, comme faisaient tous ces gens, de moins sérieux que la vie positive, mais au contraire, de si supérieur à elle, que seul, il valait la peine d'être exprimé. Ses charmes, d'une tristesse intime, c'était eux qu'elle essayait d'imiter, de recréer, et jusqu'à leur essence, qui est pourtant d'être incommunicable, et de sembler frivole à tout autre qu'à celui qui les éprouve, la petite phrase l'avait captée, rendue visible. Si bien qu'elle faisait confesser leur prix et goûter leur douceur divine par tous ces mêmes assistants, si seulement ils étaient un peu musiciens, qui ensuite les méconnaîtraient dans la vie, en chaque amour particulier qu'ils verraient naître près d'eux. Sans doute la forme sous laquelle elle les avait codifiés ne pouvait pas se résoudre en raisonnement. Mais depuis plus d'une année que, lui révélant à lui-même bien des richesses de son âme, l'amour de la musique était pour quelque temps au moins né en lui. Swann tenait les motifs musicaux pour de véritables idées d'un autre monde, idées voilées de ténèbres, inconnues, impénétrables à l'intelligence, mais qui n'en sont pas moins parfaitement distinctes les unes des autres, inégales en elles de valeur et de signification. Quand, après la soirée Verdurin, se faisant rejouer la petite phrase, il avait cherché à démêler comment, à la façon d'un parfum, d'une caresse, elle le circonvenait, elle l'enveloppait, il s'était rendu compte que c'était au faible écart entre les cinq notes qui la composaient et au rappel constant de deux d'entre elles qu'était due cette impression de douceur rétractée et frileuse. Mais en réalité, il savait qu'il raisonnait ainsi non sur la phrase elle-même, mais sur de simples valeurs substituées pour la commodité de son intelligence à la mystérieuse entité qu'il avait perçue avant de connaître les Verdurin à cette soirée où il avait entendu pour la première fois la sonate. Il savait que le souvenir même du piano faussait encore le plan dans lequel il voyait les choses de la musique, que le chant ouvert au musicien n'est pas un clavier mesquin de cette note, mais un clavier incommensurable, encore presque tout entier inconnu, où seulement ça et là, séparé par d'épaisses ténèbres inexplorées, quelques-unes des millions de touches de tendresse, de passion, de courage, de sérénité qui le composent. Chacune aussi différente des autres qu'un univers, d'un autre univers, ont été découvertes par quelques grands artistes qui nous rendent le service en éveillant en nous le correspondant du thème qu'ils ont trouvé de nous montrer quelle richesse, quelle variété cache à notre insu cette grande nuit impénétrée et décourageante de notre âme, que nous prenons pour du vide et pour du néant. Elle avait disparu. Swann savait qu'elle reparaîtrait à la fin du dernier mouvement, après tout un long morceau que le pianiste de Madame Verdurin sautait toujours. Il y avait là d'admirables idées que Swann n'avait pas distinguées à la première audition et qu'il percevait maintenant comme si elles se fussent, dans le vestiaire de sa mémoire, débarrassées du déguisement uniforme de la nouveauté. Swann écoutait tous les thèmes épars qui entreraient dans la composition de la phrase comme les prémices de la conclusion nécessaire. Il assistait à sa genèse. Oh, audace aussi géniale peut-être, se disait-il, que celle d'un Lavoisier, d'un Ampère, l'audace d'un Vinteuil, expérimentant, découvrant les lois secrètes d'une force inconnue, menant à travers l'inexploré vers le seul but possible, l'attelage invisible auquel il se fie et qu'il n'apercevra jamais. Le beau dialogue que Swann entendit entre le piano et le violon au commencement du dernier morceau. La suppression des mots humains, loin d'y laisser régner la fantaisie comme on aurait pu le croire, l'en avait éliminé. Jamais le langage parlé ne fut si inflexiblement nécessité, ne connut à ce point la pertinence des questions, l'évidence des réponses. D'abord, le piano solitaire se plaignit. Comme un oiseau abandonné de sa compagne, le violon l'entendit, lui répondit comme d'un arbre voisin. C'était comme au commencement du monde, comme s'il n'y avait encore eu que deux sur la terre, ou plutôt dans ce monde fermé à tout le reste, construit par la logique d'un créateur, où ils ne seraient jamais que tous les deux. Cette sonate. Est-ce un oiseau? Est-ce l'âme incomplète encore de la petite phrase? Est-ce une fée, cet être invisible et gémissant dans le piano ensuite redisait tendrement la plainte? Ses cris étaient si soudains que le violoniste devait se précipiter sur son archet pour les recueillir. Merveilleux oiseau, le violoniste semblait vouloir le charmer, l'apprivoiser, le capter. Déjà il avait passé dans son âme, déjà la petite phrase évoquée agitait comme celui d'un médium, le corps vraiment possédé du violoniste. Swann savait qu'elle allait parler une fois encore. Et il s'était si bien dédoublé que l'attente de l'instant imminent où il allait se retrouver en face d'elle le secoua d'un de ses sanglots, qu'un beau vers ou une triste nouvelle provoque en nous, non pas quand nous sommes seuls, mais si nous les apprenons à des amis en qui nous nous apercevons comme un autre dont l'émotion probable les attendrit. Elle reparut, mais cette fois pour se suspendre dans l'air et se jouer un instant seulement comme immobile et pour expirer après. Aussi Swann ne perdait-il rien du temps si court où elle se prorogeait. Elle était encore là comme une bulle irisée qui se soutient, tel un arc-en-ciel dont l'éclat faibli s'abaisse puis se relève et avant de s'éteindre s'exalte un moment comme il n'avait pas encore fait aux deux couleurs qu'elle avait jusque-là laissé paraître. Elle ajouta d'autres cordes diaprées, toutes celles du prisme, et les fit chanter. Swann n'osait pas bouger et aurait voulu faire tenir tranquille aussi les autres personnes, comme si le moindre mouvement avait pu compromettre le prestige surnaturel, délicieux et fragile qui était si près de s'évanouir. Personne, à vrai dire, ne songeait à parler. La parole ineffable d'un seul absent, peut-être d'un mort? Swann, savait-il si Vinteuil vivait encore? s'exhalant au-dessus des rites de ses officiants, suffisait à tenir en échec l'attention de 300 personnes, et faisant de cette estrade où une âme était ainsi évoquée un des plus nobles autels où put s'accomplir une cérémonie surnaturelle. De sorte que, quand la phrase se fut enfin défaite, flottant lambeau dans les motifs suivants qui avaient déjà pris sa place, si Swann, au premier instant, fut irrité de voir la comtesse de Montériandais, célèbre par ses naïvetés, se pencher vers lui pour lui confier ses impressions avant même que la sonate fût finie, il ne put s'empêcher de sourire et peut-être de trouver aussi un sens profond qu'elle n'y voyait pas dans les mots dont elle se servit. Émerveillée par la virtuosité des exécutants, la comtesse s'écria en s'adressant à Swann. « C'est prodigieux. Je n'ai jamais rien vu d'aussi fort. » Mais un scrupule d'exactitude lui faisant corriger cette première assertion, elle ajouta cette réserve. « Rien d'aussi fort depuis les tables tournantes. » À partir de cette soirée, Swann comprit que le sentiment qu'Odette avait eu pour lui ne renaîtrait jamais, que ses espérances de bonheur ne se réaliseraient plus. Et les jours où par hasard elle avait encore été gentille et tendre avec lui, si elle avait eu quelque attention, il notait ses signes apparents et menteurs d'un léger retour vers lui, avec cette sollicitude attendrie et sceptique, cette joie désespérée de ceux qui, soignant un ami arrivé au dernier jour d'une maladie incurable, relatent comme des faits précieux. Hier, il a fait ses comptes lui-même, et c'est lui qui a relevé une erreur d'addition que nous avions faite. Il a mangé un œuf avec plaisir. S'il le digère bien, on essaiera demain d'une côtelette, quoi qu'il les sache dénuées de signification à la veille d'une mort inévitable. Sans doute Swann était certain que s'il avait vécu maintenant loin d'Odette, elle aurait fini par lui devenir indifférente, de sorte qu'il aurait été content qu'elle quittât Paris pour toujours. Il aurait eu le courage de rester, mais il n'avait pas celui de partir. Probablement ce qui fait défaut, la première fois, ce n'est pas la compréhension, mais la mémoire. Car la nôtre, relativement à la complexité des impressions auxquelles elle a à faire face pendant que nous écoutons, est infime, aussi brève que la mémoire d'un homme qui, en dormant, pense mille choses qu'il oublie aussitôt, ou d'un homme tombé à moitié en enfance qui ne se rappelle pas la minute d'après ce qu'on vient de lui dire. Ces impressions multiples, la mémoire n'est pas capable de nous en fournir immédiatement le souvenir. Mais celui-ci se forme en elle peu à peu et, à l'égard des œuvres qu'on a entendues deux ou trois fois, on est comme le collégien qui a relu à plusieurs reprises avant de s'endormir une leçon qu'il croyait ne pas savoir et qu'il la récite par cœur le lendemain matin. Seulement, je n'avais encore jusqu'à ce jour rien entendu de cette sonate, et là où Swann et sa femme voyaient une phrase distincte, celle-ci était aussi loin de ma perception claire qu'un nom qu'on cherche à se rappeler et à la place duquel on ne trouve que du néant, un néant d'où, une heure plus tard, sans qu'on y pense, s'élanceront d'elles-mêmes, en un seul bond, les syllabes d'abord vainement sollicitées. Et non seulement on ne retient pas tout de suite les œuvres vraiment rares, mais même au sein de chacune de ces œuvres-là, et cela m'arriva pour la sonate de Vinteuil, ce sont les parties les moins précieuses qu'on perçoit d'abord. De sorte que je ne me trompais pas seulement en pensant que l'œuvre ne me réservait plus rien, ce qui fit que je restais longtemps sans chercher à l'entendre, du moment que Madame Swann m'en avait joué la phrase la plus fameuse. J'étais aussi stupide en cela que ceux qui n'espèrent plus éprouver de surprise devant Saint-Marc de Venise parce que la photographie leur a appris la forme de ses dômes. Mais bien plus, même quand j'eus écouté la sonate d'un bout à l'autre, elle me resta presque tout entière invisible, comme un monument dont la distance ou la brume ne laisse apercevoir que de faibles parties. De là, la mélancolie qui s'attache à la connaissance de tels ouvrages, comme de tout ce qui se réalise dans le temps. Quand ce qui est le plus caché dans la sonate de Vinteuil se découvrit à moi, déjà entraîné par l'habitude, hors des prises de ma sensibilité, ce que j'avais distingué, préféré tout d'abord, commençait à m'échapper, à me fuir. Pour n'avoir pu aimer qu'en des temps successifs, tout ce que m'apportait cette sonate, je ne la possédais jamais tout entière. Elle ressemblait à ma vie. Mais, moins décevant que la vie, ces grands chefs-d'œuvre ne commencent pas par nous donner ce qu'ils ont de meilleur.
Ainsi se termine cette émission consacrée au thème de « La petite phrase de Vinteuil » dans l'œuvre de Marcel Proust, sujet qui traite dans son œuvre la relation entre la musique et la vie de ses personnages. Sujet récurrent, comme d'autres, qu'il évoque à différentes périodes de l'existence de ses personnages. Les plages musicales que vous avez entendues à différents moments de l'émission sont toutes des extraits de la sonate numéro 1 pour violon et piano, opus 75 de Camille Saint-Saëns, œuvre de 1885, interprétée là par Flora Helfège au violon et Jean Martin au piano, accompagnée par d'autres musiciens.
Thank you.